Ja kenne. La place d'Abia, mais sa femme était des filles d'Aaron. Et son nom était Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements, dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Et il n'y avait pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient tous deux fort avancés en âge. Car ces 13 anges lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et pour plusieurs, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand dans le Seigneur. Il ne boira ni vin ni cervoise, il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le ventre de sa mère. Il fera retourner plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui dans la puissance, dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, comment connaîtrai-je cela, car moi je suis un vieillard, et ma femme est fort avancée en âge. Et l'ange répondant lui dit, moi je suis Gabriel, qui me tiens bien vite, et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Verset 24, or après ces jours, Élisabeth, sa femme conçue, et elle se cacha 5 mois, disant, le Seigneur m'a ainsi fait, au jour où il m'a regardé, pour ôter mon reproche parmi les hommes. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant rentré auprès d'elle, dit, je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et raisonnait dans le même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, il sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il règnera sur la maison de Jacob à toujours. Et il n'y aura pas de fin à son royaume. Au chapitre. Verset 6. Il arriva pendant qu'ils étaient là, Marie et Joseph, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et elle mit au monde son fils premier-né. Il en maillota et coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel-ville. Mais il y avait dans la même contrée des bergers demeurant au champ et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, ayez point peur, car voici je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, Dieu Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. Verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort. Que premièrement il eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu. Et dit maintenant, Seigneur, tu laisses saluer ton esclave en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici celui-ci est mis pour la chute et le relèvement plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira, et même une épée transpercera ta propre âme, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, et veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour. Celle-ci, survenant à ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. Et quand ils eurent tout accompli, selon la loi du Seigneur, ils s'en retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Et l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Au chapitre 3, verset 21, il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il y eut une voix qui venait du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Épître aux Thessaloniciens, un Thessalonicien, premier chapitre, verset 9, car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous, et comment vous vous êtes tournés les idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, et nous délivre de la colère qui vient. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 12, et je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or, et au milieu de 7 lampes, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et sans la poitrine une ceinture d'or, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à des reins brillants, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de bronze, et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage comme un soleil quand il vit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et mis sa voix sur moi disant crainte-moi, moi je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort, et voici je suis vivant. Mon siècle est sûr, je tiens les clés de la mort et de la baisse. À la fin du livre, l'Apocalypse, verset 16 du chapitre 22, 22 verset 16, moi j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi je suis la racine et la postérité de la vie, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit de l'épouse disent bien. Verset 20, celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus-Christ est avec tous les saints. Nous avons quelques pensées. Il s'est écoulé environ 400 ans depuis que Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament, avait prononcé ces paroles. Ceux qui craignent l'Éternel ont parlé dans la langue, et un livre de souvenirs a été écrit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Le peuple avait complètement oublié l'Éternel. Ce dernier prophète nous montre quelle est son ingratitude vis-à-vis de Dieu. En quoi vous as-tu aimé? Dieu va envoyer maintenant sur la terre celui qui seul pourra recouvrer pour lui cette créature perdue, cette créature déchue, tombée dans le péché. Non seulement Israël, mais tous les hommes. Il va envoyer le Sauveur, son Fils bien-aimé, celui qui a reçu ce nom merveilleux de Jésus. Mais, dans ce que nous avons lu, il y a des personnages qui ont attendu patiemment celui qui était annoncé, et il y a aussi le Seigneur lui-même, celui qui remplissait les cœurs de ceux qui attendaient sa venue. Je voudrais dire un mot tout d'abord des personnes qui l'attendaient. Ce sont ces quelques-uns que mentionne Malachi. Ils parlaient l'un à l'autre de lui. Nous avons d'abord un couple pieux au début de l'Évangile, très âgé, Zacharie et Élisabeth. Soulignons ce qui nous est dit de leur marche. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements du Seigneur. dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Voilà, chers amis, pour nous croyants des modèles. Est-ce que nous marchons aujourd'hui, au XXe siècle, dans toutes les ordonnances du Seigneur? Est-ce que cette parole, parce qu'au fond, les ordonnances, c'est pour nous la parole de Dieu tout entière, est-ce qu'elle a sur nos cœurs tout son poids, toute son autorité? Est-ce qu'elle règne notre marche de tous les jours? Voilà une question que chacun peut se poser. Ils étaient justes devant Dieu, tout croyant et revêtu de justice en Christ. Mais il y a aussi une justice pratique, l'absence de péché dans nos croix. Une marche dans la communion avec le Seigneur, et c'est ce que réalisaient Zacharie et Élisabeth, bien que ils ne possédaient pas encore l'Esprit habitant en eux. Le Saint-Esprit n'a été envoyé qu'après la mort et l'élévation du Seigneur en ciel. Comme d'autres croyants de l'Ancien Testament, en Abraham, en Moïse et d'autres, ils marchaient dans la crainte du Seigneur. Et ils avaient à cœur d'obéir à sa parole. C'est là un tableau émouvant, simple, d'une très grande simplicité. Un de nos conducteurs qui a écrit une étude sur l'Évangile de Luc commence ainsi, c'est comme une histoire des temps passés. Un récit très simple, il y avait au roi des rois un certain sacrificateur. Mais quelle beauté dans la conduite et la marche de Zacharie et d'Élisabeth, sans reproche. Nous n'oserions pas dire que nous sommes sans reproche quant à la marche pratique. Nous le sommes devant Dieu quant à la position céleste. Mais, dit de ces deux croyants, il est dit sans reproche. Je crois qu'il y a dans l'Ancien Testament peut-être deux hommes seulement auxquels on peut appliquer cette qualificatif. Il s'agit de Joseph et de Daniel. Joseph était fidèle, Daniel aussi. Ils n'ont rien relevé à leur endroit. Cela ne veut pas dire qu'ils fussent parfaits. Un seul l'a été, c'est Christ. Mais c'était aussi des modèles. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, leur dit que vous soyez sans reproches et purs au milieu d'une génération tortue et perverse, reluisant comme des lumières. Qu'est-ce qui caractérisait ces croyants? L'attente de celui qui était annoncé par les prophètes, les écrits prophétiques. Les prophètes avaient rendu par avance témoignage que les souffrances qui seraient la part de Christ, des gloires qui suivraient, il était annoncé, Esaïe a parlé de lui et d'autres. Ils avaient cru la parole de Dieu et ils l'attendaient. On l'a vu un peu plus loin encore avec Anne. Mais il y avait quelque chose qui est une note de tristesse, si l'on peut dire. Élisabeth était stérile. On sait que la stérilité, dans la parole de Dieu, fait penser à l'incapacité totale de l'homme, dans la chair, de porter du fruit. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs femmes stériles, Rebecca, Sarah aussi, et d'autres. C'est pour montrer que l'homme, en général, l'homme, créature de Dieu, tombé dans le péché, est incapable de porter du fruit. Il faut que la grâce opère en lui et qu'il reçoive une nouvelle nature qui, elle, portera du fruit. Et on sait combien cela affligeait les femmes juives parce qu'elles pensaient au Messie. Et dans Daniel, nous avons un verset qui nous fait penser à cela. À propos de l'Antichrist, il est dit, il n'aura pas égard à l'objet du désir des femmes. L'Antichrist. La femme juive, avec ce désir intérieur d'être la mère d'une femme pieuse en Israël, bien sûr. Eh bien, voilà que Dieu va répondre à l'attente de ce couple pieux, bien qu'il y ait eu de l'incrédulité chez Zacharie, mais qu'il ait dû en porter les conséquences, il était devenu muet. Pendant un temps, il n'a pas cru. Sarah aussi avait dit, quand Dieu avait dit, en ton terme sera là, tu rends le fils. Elle avait dit. Et pourtant, la chose s'est accomplie à la lettre. Quand Dieu parle, il dit toujours la vérité. Nous avons donc à croire ce qu'il nous dit à travers sa parole, même si nous ne comprenons pas toujours. Cet enfant est donc Jean le baptiseur. Il reçoit son nom au chapitre 5 du chapitre 1er, verset 63. Jean est son nom, car il ne pouvait pas parler. Il demande des tablettes et il écrit ce nom, Jean. Sur la terre, nous savons, ce sont les parents qui donnent le nom à leurs enfants. Mais nous allons voir avec le Seigneur, avec la personne du Seigneur, que tout est différent. Ce n'est pas Marie ni Joseph qui ont donné le nom. C'est l'ange qui a dit, tu appelleras son nom Jésus. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce n'étaient pas les parents là qui pouvaient donner le nom. Ce nom merveilleux, caché dans l'Ancien Testament, déjà au chapitre 30 des Proverbes, la question était posée, quel est son nom? Et le nom de son fils, si tu le sais. Ah, ce couple pieux aussi, en juge, Faez Manoah, sa femme, et demande à l'ange, quel est ton nom? Afin qu'il t'honore. Et le nom n'est pas révélé. Il a fallu attendre que l'accomplissement du temps fût et que le Seigneur vienne sur la terre pour que ce nom merveilleux, ce nom qu'il a reçu comme homme, Jéhovah Sauveur, soit révélé. Pour revenir à Zacharie et Élisabeth, Jean leur est donné, et en effet, de grandes choses sont dites de cet enfant. Il ira dans la puissance et l'esprit d'Élie pour faire retourner les fils d'Israël au Seigneur. Et nous savons que le ministère de Jean a été, en effet, un ministère remarquable. Il a préparé la venue de celui qui est bien au-dessus de lui, donc il n'était pas digne de délier la couronne à son âme. Quand nous ouvrons l'évangile de Jean, au premier chapitre, Jean est sans doute à la fin de sa course, à peu près. Il est à la fin de son ministère. Il dira, il faut que lui, en parlant du Seigneur, croie ce que moi je dis de lui. Il va quitter la scène. Mais il a achevé sa course, et nous savons par le livre des Actes, comme Jean achevait sa course. Une course bien remplie. Il était pourtant pas très âgé, Jean le baptiseur, sans doute, mais il avait achevé la course. Et en effet, quelle puissance dans son ministère pour ramener le cœur de ce peuple endurci à l'Éternel qu'ils avaient abandonné. Il est prévient du jugement qui va tomber sur la nation incrédule. Et il parle de celui qui vient après lui et dont il a discerné la gloire, celui qui est au-dessus de tous. Et il dira, celui qui a l'épouse est l'époux. Et il ne tend pas sur ce ministère de Jean. Continuons avec ces personnages qui attendaient le Seigneur. Il y a donc Zacharie et Isabelle, Et nous avons vu au chapitre 2, verset 25, un trait particulier de la planche de Siméon. Il y avait maintenant donc Siméon, et puis nous verrons ensuite Anne. Siméon attendait la consolation de la vie. Et lui aussi était juste, et puis juste et puni. Là aussi un témoignage remarquable et rendu à ce vieillard. Juste et puni. La piété, nous savons, c'est, elle est faite de deux sentiments, la crainte de Dieu et la confiance en lui. Puissions-nous abonder dans la piété. Elle est mentionnée dans les épîtres à Timothée, peut-être 7 ou 8 fois, j'aurais compté. Nous avons à nous exercer à la piété, c'est donc que nous pouvons en manquer. Exerce-toi toi-même à la piété, c'est un caractère du croyant qui, dans lequel Dieu prend plaisir. L'Éternel s'est choisi l'homme pieux. Et l'homme pieux par excellence, c'est Christ. Dans la note au psaume 16, il est dit, tu ne permettras pas que ton sein, dans la note ton pieux, voit la corruption. C'est une grande chose que la piété. Elle a les promesses de la vie présente et celle qui est à venir. Et quelqu'un qui est pieux, eh bien, il y aura un parfum qui se répandra autour de lui, de telle sorte qu'on ne peut pas se tromper. Qu'il nous soit accordé d'imiter ce vieillard. Et qu'attendait-il? Il attendait le Seigneur, la consolation d'Israël. Il attendait le Messie, celui qui rétablira toutes choses, qui établira sur la terre son règne de paix et de justice dans un temps à venir. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il y a eu le prix du Seigneur. Voilà encore une scène d'une très grande beauté. Ce vieillard monte au temple, l'Esprit de Dieu l'a conduit à y aller, il vint par l'Esprit dans le temple, verset 27. Il monte au temple, et là, il y a les parents qui apportent le petit enfant, Jésus, pour faire à son égard selon l'usage de la loi. Les parents avaient déjà offert le sacrifice le moins coûteux. Chapitre 2, verset 22 à 24, une paire de tourterelles et deux jeunes pigeons. C'était le sacrifice le moins coûteux que la loi demandait. Les parents du Seigneur étaient pauvres. Il est né dans la pauvreté. Mais par sa pauvreté, nous avons été enrichis. Quel merveilleux que là, le mystère de la piété, mon Dieu il est grand, Dieu a été manifesté en chair. C'est le petit enfant Jésus. Mais la foi de Siméon discerne sa gloire, et alors il le prend dans ses bras. Il bénit Dieu, mais il ne bénit pas les parents. Il ne bénit pas le Seigneur, il bénit les parents. Quel discernement de la grandeur de celui qu'il a entre ses bras. Combien la piété rend toujours intelligent. Et Siméon peut bénir les parents, mais il ne bénit pas le petit enfant. Il était son sauveur. Quelle merveille, quel tableau aussi touchant de voir ce vieillard qui attendait la consolation. Et à cet égard, faisons une parenthèse. Qu'est-ce que nous attendons, chers amis? Nous qui sommes ici ce soir, attendons-nous la mort? Non. Non. Nous attendons le Seigneur. C'est pour cela que j'ai lu ces versets de Thessaloniciens. Nous n'attendons pas la mort. La mort peut survenir en chemin. Mais elle n'est qu'une servante, comme l'a dit un cher frère, qui introduit le croyant dans la félicité auprès de son sauveur. mais c'est le Seigneur lui-même, c'est son retour que nous attendons. Siméon attendait la consolation d'Israël, et Dieu a permis qu'il ne voit pas la mort que premièrement, il n'eut lieu le Christ du Seigneur. Cette grâce lui a été accordée, il a tenu dans ses bras. Et alors il peut dire, tes yeux ont vu ton salut. Et je passe plus loin, après nous avons Anne. La première personne. Elle était très âgée, nous remarquons que tous étaient très âgés. C'était la faiblesse même, ce résidu qui attendait le Seigneur à ce moment-là, sa première venue. Ils étaient marqués par la vieillesse, par la faiblesse. Ce n'était pas la puissance extérieure, mais les affections. Les affections étaient réveillées, et c'est ce que nous pouvons désirer en lisant ces passages pour chacun. Où en sommes-nous quant à nos affections pour Christ? Est-ce que nous tenons le petit enfant dans nos bras, si j'ose l'exprimer ainsi, avec toute la révérence que l'on doit à la personne du Seigneur? Est-ce qu'il est cher à nos cœurs? Est-ce que nous l'aimons? Voilà ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas tellement la puissance, un déploiement extraordinaire. Les Corinthiens avaient des dons. Ils s'en glorifiaient. C'était le désordre. L'apôtre leur dit, vous êtes charmant. Aussi, il a introduit la croix dans le premier chapitre. La parole de la croix. Et puis, à la fin de l'épître, il présente la gloire. L'épître est comme encadré entre la croix et la gloire. Christ crucifié, Christ glorifié. C'est lui qu'il vous faut, Corinthiens. Un Christ mort, un Christ dans la gloire. Voilà ce qu'il vous faut pour vos cœurs. Les dons, ils s'en servaient pour se glorifier. Ici, il n'y a pas de mot, en tout cas. C'est la pauvreté. Mais quelles affections. Anne était d'une tribu particulièrement bénie en Israël, la tribu d'Azer, d'elle. D'Azer, il y a un temps excellent. Et lui fournira les délices royales, et qu'il dit en Genèse 49. Et elle était cette tribu-là, veuve et âgée. Et que faisait-elle? Eh bien, deux choses. Elle servait Dieu en jeûne et en prière. Elle louait le Seigneur et elle parlait de lui. Deux aspects de la vie chrétienne qu'il est bon de souligner aujourd'hui plus que jamais. Deux caractères que les Thessaloniciens eux-mêmes, ces croyants, amenaient des idoles à Dieu, réalisaient aussi. Nous avons à servir, nous avons à attendre celui qui vient bientôt et à parler de lui, à nous parler de lui. Ce qui fait du bien aujourd'hui, ce qui a fait du bien toujours, c'est de parler de lui. C'est lui qui est digne d'occuper dans nos cœurs la première place. Les Colossiens, cet épître-là pour nous dire, s'était détaché du chef. Il ne tenait plus ferme le chef Christ. Alors l'apôtre avait discerné ce danger à Colosse. Son œil spirituel avait vu le danger qui guettait les Colossiens. Il commence à placer devant eux toutes les gloires, toutes les primautés de Christ. Premier chapitre. Fils de l'amour du Père. Créateur de toute chose, premier-né de la création, chef de l'assemblée, toutes ses gloires, il les place devant leur cœur, afin qu'ils soient ramenés à lui, et qu'en toute chose, ils prennent lui la première place. Et puis après, nous avons des exhortations dans cette épître, mais il y a marqué à voir que tout au début, la première chose que fait l'apôtre, c'est de placer devant leur cœur celui dont la beauté ne surpasse tout ce que nous pouvons comprendre. Il est plus beau que les fils des hommes. voici, le Seigneur est tout au début, là de son chemin. Un petit enfant, nous l'avons vu d'abord coucher dans la crèche, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Puis, nous le voyons ici dans les bras du vieillard Siméon. Puis, enfant, plus loin, il n'est pas lu ses versets, obéissant à ses parents, versets 41-52 du chapitre 2, montrant déjà les perfections de son humanité parfaite, il leur était soumis. Il leur était soumis. Lui qui a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il est Dieu, on lui doit l'obéissance. Il est venu pour obéir. Tu m'as creusé les oreilles, dit-il prophétiquement. Et puis, au milieu des docteurs, des vénérables rabbins juifs, Seigneur, j'étais un enfant de 12 ans. Quelle perfection là aussi brille dans son attitude. Il les écoutait et il les interrogeait. C'est ce qui convient à un enfant. Quel modèle, chers enfants, qu'est-ce ici? Nous permettons d'attirer votre attention sur cette attitude du Seigneur. Il est le modèle pour chacun. À quel âge que nous soyons de la vie. Il a été l'homme parfait. Il les écoutait, pourtant, il pouvait les enseigner et il s'étonnait, bien sûr, de son intelligence et de ses réponses. Il était la parole, cette chair, tabernaclant au milieu de nous. La loi était toute dedans de ses entrailles. Mais, quelle attitude remarquable vis-à-vis de ses vieillards, vis-à-vis de ses parents même, bien que, quand il s'agit des droits de Dieu, il peut dire à sa mère, ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père. Alors là, c'est celle de la vérité, que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel. Nous pourrions user de la grâce trop, et nous pourrions manquer du sel qui ne devait pas manquer sur l'offrande du gâteau, Lévitique 2. Le sel ne devait pas manquer. C'est l'énergie divine en nous, l'énergie de la vie divine, la sainte séparation pour Dieu. Le Seigneur peut dire à sa mère, tout en gardant le respect qui est dû, ne saviez-vous pas, il a son Père dans le ciel, Dieu lui-même, il est venu pour servir, pour le glorifier, il faut qu'il soit aux affaires de son Père. Chers amis, aujourd'hui aussi, faisons une application, nous nous occupons beaucoup de nos affaires terrestres, c'est très bien, mais pensons aux choses célestes. C'est ce que le Seigneur a dit. En Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Mais là aussi, chers enfants, pensez-y. Il faut, bien sûr, travailler sur cette terre, gagner sa vie, mais pensez à ce que le Seigneur nous enseigne ici à son exemple. Il faut être aux affaires de mon Père. Du dévouement pour Christ, ses intérêts, le bien de l'Assemblée, voilà ce qu'il faut désirer davantage, et nous devons le demander au Seigneur. Paul ne faisait qu'une chose, il courait droit au but, il était aux affaires du Seigneur Paul. Il avait devant lui le service du Seigneur, pourvu que j'achève ma course. Acte 20. C'est ce qui est à désirer. Nous pourrions là aussi nous laisser enlacer par les choses de la vie, de telle sorte que la lumière est sous le boisseau et la vie spirituelle s'affaiblit. Quel danger. Et puis, nous avons Seigneur à son baptême. Je passe rapidement au baptême. Là, le ciel s'ouvre. Il vient au milieu de ceux qui se repentaient, c'est quelques-uns. A-t-il à se repentir? Non. Mais il est convenable, dit-il, d'accomplir toute justice. Il entre par la porte. Il est le vrai berger qui, dans Jean 10, peut dire qu'il entre par la porte. Comme homme, il s'identifie avec ses croyants, mais le ciel s'ouvre, la voix du Père proclame son excellence et il est distingué au milieu de ceux qui viennent à se repentir. On a dit aussi à cet égard, sans forcer l'écriture, que la tunique bigarrée dont était revêtu Joseph fait penser au baptême du Seigneur. Joseph était distingué de ses frères, son père lui avait fait une tunique bigarrée. Au baptême de Jean, Jésus, homme au milieu des hommes, est distingué. La faveur de Dieu repose sur lui. Le Saint-Esprit descend comme une colonne, sous une forme corporelle, qui est un vase pur sur lequel l'Esprit peut descendre. Soulignons à cet égard que le Seigneur a reçu le Saint-Esprit dans son humanité, en vertu de ses propres perfections, que le croyant ne reçoit le Saint-Esprit qu'à travers l'œuvre accomplie à la croix et la résurrection et la glorification du Seigneur. Il n'est envoyé qu'à la Pentecôte pour baptiser les croyants en ce corps. Nous ne possédons pas, comme le Seigneur l'a reçu, nous n'avons pas comme il l'a reçu, parce qu'en nous, il y a péché. Lui peut le recevoir. Nous avons là les trois personnes de la Déité. Les trois personnes sont là. Et on l'a rapproché aussi du Dieu du Lévitique. Il y a la fine fleur de farine, riche dans son humanité. Il y a Jésus brillait de ses l'encens. L'offrande de gâteau était recouverte d'encens. Et il est dit que l'encens n'était pas mesuré avec tout l'encens. Il n'y a pas de mesure. Pour distinguer celui qui est parfait, n'importe manière entre guillemets, toute sa personne est désirable. Nous comptons bien sûr trop loin, le Seigneur est tenté, à plus tard, par Satan. Satan le rencontre au début de son ministère. Tentations dans lui qui sont dans l'ordre moral, c'est-à-dire dans les normes que nous avons en Éden, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. En nature, l'ordre est différent. C'est l'ordre moral ici. D'ailleurs, lui, nous présentons toujours les faits dans l'ordre moral, laissant l'ordre chronologique. Seigneur est tenté, mais il répond, il est écrit. Il a la victoire, Satan est lié, il va piller ses biens pendant ses 3 ans et demi. Et puis, Satan revient de nouveau, âgé de ses années, à la fin de son ministère, et c'est dans Luc que nous avons peut-être le côté le plus touchant de son humanité. C'est Luc qui nous rapporte qu'un ange est apparu pour le fortifier. Quel abaissement! Quel abaissement, une créature vient soutenir son créateur. Et puis enfin, c'est l'œuvre de la croix, dans les derniers chapitres. La souffrance et la mort du Seigneur, pour qu'il soit ce sauveur annoncé au début, dans la cité de David, vous aimez un sauveur. C'est par sa mort sur la croix qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Chers amis, vous avez-vous reçu dans vos cœurs? Et dans cet évangile, qui est en particulier aussi l'évangile de la joie, on trouve la joie dans les chants de Bethléem, on la trouve dans le chapitre 15, le bon berger se réjouit parce qu'il a trouvé sa brebis. La femme se réjouit parce qu'elle a trouvé sa femme. Le père se réjouit parce que le prodigue est revenu. Et au chapitre 19, elle est dans le cœur de Zachée. Il le reçut avec joie. Zachée a trouvé en lui son sauveur, celui dont son cœur avait besoin. Les richesses ne suffisaient pas à satisfaire. Il avait un besoin, Zachée. Il lui fallait un sauveur. Il le reçut avec joie. L'avez-vous reçu tous, chers amis? C'est la question capitale que nous poserons encore une fois. Si vous n'avez pas Jésus comme votre sauveur, vous allez au devant du jugement. Si vous le connaissez, si vous l'avez reçu, eh bien, vous allez vers lui. Deux destinations différentes. Mais pour terminer, les Thessaloniciens me montraient aussi plus tard, après l'établissement du christianisme sur la terre, les caractères moraux que présentaient ces résidus, Zacharie, Élisabeth, Siméon, Anne, au début, lors de la première venue du Seigneur. Ces Thessaloniciens étaient des idolâtres, et l'apôtre me rend grâce de ce que vous avez reçu la parole, même accompagnée de grandes tribulations, avec la joie d'Esprit Saint, et ils étaient devenus des modèles pour tous ceux qui croient. Alors, que faisaient-ils ces Thessaloniciens? Ils servaient et ils attendaient, pour servir et pour attendre son Fils. Voilà, chers amis, ce qui résume la vie chrétienne. Siméon, Zacharie, Anne, Élisabeth attendaient celui qui devait venir. Nous l'attendons pour transformer le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Seigneur ne reviendra plus pour s'occuper du péché et qui posait tout, nous le dit de manière formelle, mais qu'il apparaîtra une seconde fois sans péché, c'est-à-dire n'ayant plus à s'occuper du péché, à celui, à ceux qui l'attendent. Voilà l'espérance du croyant et qu'il nous soit accordé de servir. À servir, c'est toute une vie. Le service chrétien, c'est toute une vie. Puissiez-vous, chers enfants, commencer jeunes. Et nous pensons au jeune Samuel, par exemple. Je ne sais pas quel âge il avait. Il ouvrait les portes de la maison des Pères. Puissiez-vous, dès votre jeune âge, vous attachez à l'Assemblée, vous attachez au Seigneur, le ciel, il attend derrière. Et la petite fille de Naaman qui avait amené le Naaman à Élisée, simplement en exprimant un souhait. Elle a été le moyen de la délivrance de Naaman. Un jeune enfant peut servir, et nous l'avons chanté sur les bancs d'école du dimanche. Nul enfant n'est trop petit. Servons tous dès notre enfance, notre adorable Sauveur. Et puis servir quand on est plus âgé. Et même dans la blanche vieillesse, ils porteront des fruits encore. Dans la blanche vieillesse, sur le 92, ils seront pleins de sève et verdoyants. Qui est le modèle d'un service parfait, le Seigneur? Nous l'avons vu tout au long de l'Évangile. Parfait comme enfant, parfait comme homme, jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Fixons nos regards sur lui. Et si j'ai lu ces passages dans l'Apocalypse, là, nous voyons Seigneur tout autre, sous un jour tout différent. Ce n'est plus l'âge Jésus de Nazareth, les gens le voient avec les attributs du pouvoir et du gouvernement qu'il va exercer. Et dans ce premier chapitre, il contemple le Fils de l'homme. C'est la même personne que l'Ancien des Jours en Daniel 7. En Daniel 7, nous avons les deux côtés. avait été instrumenté ici, tout est réuni dans la même personne. En fait, approcher le Fils de l'homme de l'ancien des jours. Ici, c'est le Seigneur, il est Dieu, il est homme, et il va entreprendre cette œuvre étrange, l'œuvre du jugement. Et alors, il se présente avec tous les caractères du pouvoir judiciaire, la robe qui va jusqu'aux pieds, les cheveux blancs comme de la nuit, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds semblables à des reins brillants, sa voix comme une voix de grand sourd, cette voix qui avait appelé Zachée, Zachée, descends vite, il faut que je te meure dans ta maison. C'est l'amour, c'était la voix de la grâce. C'est la même voix qui vous dit encore, cher ami, tu n'es pas venu à lui, c'est la même voix qui vous dit, venez à moi, je vous donnerai du repos, c'est la voix de l'amour, mais il y aura un terme. Il y aura un terme au temps de grâce. Sa voix comme de grands feux. Et de sa bouche sortait des pédicules à deux tranchants. Son visage comme le soleil. Déjà sur la sainte montagne, son visage avait resplendi comme le soleil, un échantillon de la gloire future dans laquelle il va paraître bientôt. Le soleil parle d'autorité suprême. Et il sera comme le soleil de justice, dont la guérison sera dans ses ailes pour son peuple terrestre ramené dans la terre. Quelle vision pour Jean, on comprend qu'il tombe comme moi. Il tombe à ses pieds, mais là, voilà ma grâce, il met sa voix sur moi et me dit, ne crains pas, c'est la grâce. Seigneur, fortifie son serviteur pour qu'il puisse soutenir l'éclat d'une telle gloire. Et on pense aussi à Daniel qui, aussi devant cette vision glorieuse, a été épouvanté et il est dit, mais comme la forme d'un homme ne touche pas. Autant de l'offrande du soir. Ne crains pas Daniel, homme bien-aimé. C'est la grâce. Pour le croyant, il n'a rien à craindre. Nous avons un sauveur en lui, pas un juge, bien que nous deux nous serons manifestés devant le tribunal du Christ, mais pas pour être jugés manifestés. Mais quelle erreur pour ceux qui le rencontreront dans tous les plats de sa force. Et c'est ce qui est annoncé au verset 7 du premier chapitre, qu'il vient avec l'ennemi. Et tout œil le verra avec ceux qui l'ont percé. Mais ce précieux livre, qui est un livre de jugement, on a toujours été étonné de voir qu'il se termine avec ce nom si doux, ce nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon âme. Moi, celui qui est venu sur la terre, celui qui a été l'homme du monde, sachant que c'est la langue de Jésus, son nom d'homme, le nom qui évoque tout son amour, toute sa grâce, eh bien, il parle encore aux siens à la fin de ses lignes. Il peut leur dire, je suis la racine, c'est-à-dire celui qui est avant, et la postérité de David, il est né de la semence de David selon la chair. Et il est avant la vie. Et il est pour les siens l'étoile brillante du matin. Et l'étoile qui se lève avant le jour, avant que les rayons du soleil de justice n'apparaissent, l'Église sera en lui. Seigneur sera bon. Et l'Église reviendra avec lui pour régner. Combien ces derniers versets du Saint-Livre sont touchants. L'Esprit. Et les fous disent bien qu'elle est dit que le Seigneur le forme dans le cœur. Et d'abord, marquons l'ordre. L'Esprit est les fous. L'Esprit est une personne divine. Et puis, il y a un dernier rappel. Si quelqu'un a soif, c'est bien. La source est ouverte. Il n'y a qu'à venir voir au fleuve de la grâce. C'est pour vous ce soir, chers amis. Ce fleuve est là, il coule à la croix. Et puis, celui qui rend témoignage de ces choses dit oui, je viens bientôt, promesse bénie. Seigneur, on n'a pas dit, la parole ne dit pas qu'il viendra en 1978. Et ceux qui ont voulu fixer des dates à cet égard se sont trompés. Nous avons à l'attendre d'un moment à l'autre, en un instant, en un clin d'œil, ce qu'il y a certain, c'est que nous touchons au terme d'une économie la plus longue de toutes, celle de la grâce, la dispensation chrétienne. Seigneur, viens, et s'il venait maintenant, qui resterait sur ses bancs? Nous aimons à penser que tous nous serions enlevés pour entrer dans ces demeures où nos places ont été préparées. Que grâce lui soit rendue, que toute la gloire soit pour lui.